Que de beaux cantiques. Vous êtes d'accord avec moi ? Que de beaux cantiques qui nous permettent de préparer nos cœurs à écouter la parole de Dieu. Nous allons faire une lecture dans Hébreux chapitre 9, verset 27. Des paroles extraordinaires, profondes, qui permettent aux hommes de réfléchir quant à leur éternité, qui permettent aux hommes de réfléchir. C'est important de réfléchir. Ah ouais. Ces cantiques, je crois qu'ils ont la possibilité de nous faire louer Dieu, bien sûr, mais de nous faire réfléchir. Dans Hébreux chapitre 9, au verset 27, qu'est-il dit ? Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Est-ce que c'est une parole qui peut faire réfléchir ? Ben oui, c'est le but. Dieu veut que sa parole soit claire, que sa parole soit comme un feu qui nous interpelle, qui nous réchauffe, qui nous illumine, etc. Est-ce que nous nous rendons compte ? Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Nous allons faire une autre lecture. Dans la première épître de Paul aux Corinthiens, l'apôtre Paul écrit à cette église une longue lettre qui sera suivie plus tard, quelques années après, d'une autre longue lettre, mais il explique que ce qui est important, c'est de prêcher Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ ressuscité. Et 1 Corinthiens chapitre 1er verset 18, il dit ceci, il explique ce qu'est la prédication de la croix. Et je crois vraiment que c'est toujours pareil. 1 Corinthiens chapitre 1er verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. On le relit. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. Voilà. Et encore un dernier texte, s'il vous plaît, dans l'évangile de Matthieu. C'est le jour où Joseph est inquiet parce qu'il vient d'apprendre que sa fiancée Marie est enceinte. C'est quelque chose de terrible qui l'afflige. Il se demande, mais comment c'est possible? Comment cette jeune fille a-t-elle pu tomber enceinte? A-t-elle été avec un autre homme? C'est la question qui s'est posée. C'est normal. Matthieu chapitre 1er, verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. » C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ce n'est pas Joseph ni Marie qui ont choisi le prénom de l'enfant, c'est Dieu lui-même qui a voulu choisir le nom du Sauveur, parce que Jésus, ça veut dire le Sauveur. Et au travers de ce message, Dieu veut que les hommes soient sauvés. Êtes-vous sauvés ? Comprenez-vous la signification du salut ? Il y a des gens, je me rends compte de plus en plus, que quand on leur demande « mais c'est quoi être sauvé ?», ils ne sont pas capables de répondre. Et pourtant, dans quelques jours, le monde entier, la chrétienté, va fêter Noël, la naissance de Jésus. Et si on leur pose la question « mais qu'est-ce que ça signifie être sauvé ?», ils ne sont pas capables de vous répondre. C'est pour vous dire l'aveuglement malgré la religion. C'est important de réfléchir sur le salut. C'est important de réfléchir sur votre salut. C'est bien de parler du salut des autres, comme on l'entend parfois, les catholiques sont-ils sauvés, les protestants sont-ils sauvés? Bon, mais toi, est-ce que tu es sauvé? C'est la question la plus importante, que chacun s'occupe de son salut. Même si sur le coup ça paraît de la folie, puisqu'on l'a lu, la prédication de la croix c'est de la folie, alors ça paraît de la folie pour les gens qu'on leur parle du salut. Parler de la croix, ça paraît ridicule. Mais une fois qu'on est touché par la grâce de Dieu, ça devient véritablement une puissance merveilleuse qui amène la délivrance. Car le salut, bien sûr, nous parle de plusieurs choses. Tout d'abord, il ne faut pas voir comment le Seigneur Jésus est venu. Vous ne trouvez pas que la façon dont il est venu, c'est merveilleux? On est habitué, on le sait. Vous ne trouvez pas comment Jésus est venu? C'est pas formidable? Vous ne trouvez pas ça merveilleux? Comment il est venu? l'ange Gabriel qui arrive dans la ville. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est pas merveilleux qu'il s'adresse à Marie, un ange qui parle à une femme? C'est bien ou c'est pas bien? C'est magnifique la façon dont le Seigneur a voulu que l'invisible se mêle avec le visible. Comment les choses se sont passées? C'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que le salut, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et Dieu veut que vous soyez sauvés. Oui, Dieu ne veut pas que vous viviez dans le péché. Dieu ne veut pas que vous viviez dans la perdition. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Donc Joseph, lui, s'inquiétait de la façon dont ça s'est passé. Est-ce que c'était normal que Joseph s'inquiète? Ben oui. Il ne comprenait pas cette jeune fille un peu super, super sérieuse. Et tout d'un coup, il avait du mal à le croire. Mais voyez, Dieu sait. Dieu sait nous parler. Dieu sait intervenir. Parce que cet homme, il ne pouvait pas dormir. Il se demandait ce qu'il allait faire. Est-ce qu'il fallait qu'il rompe secrètement avec elle? Mais un ange lui a parlé. Est-ce que c'était bien? Ah ouais. Le Seigneur, il sait. Il sait nous parler quand on se pose des questions. Est-ce que vous savez que Dieu sait comment vous parler? Quand c'est vraiment nécessaire, Dieu peut vous parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais Dieu vous parlera. Joseph avait besoin d'une parole de Dieu, et Dieu la lui a donnée. Voilà, c'est lui qui sauvera le peuple de ses péchés. Quelle bonne nouvelle! Et c'est toujours une bonne nouvelle. Vous regardez les nouvelles de temps en temps? Vous les regardez les nouvelles? Est-ce que les ténèbres règnent toujours? Les ténèbres règnent toujours. Mais la lumière peut aussi venir. Dans un cœur, dans une vie, dans une maison. Et la Bible dit que le monde n'était pas dans les ténèbres et qu'une lumière est venue. Eh bien, c'est pareil. Peut-être que vous êtes dans les ténèbres, mais que ce soir, la lumière peut venir dans votre cœur. Un monde plein de ténèbres, une ville pleine de ténèbres. Mais ce soir, là où quelqu'un cherche Dieu, la lumière peut se faire. Et je ne sais pas si vous avez accepté le salut. Est-ce que vous avez déjà demandé à Jésus de vous sauver? Avez-vous dit, Seigneur, je veux que mon âme soit sauvée? On l'a lu. Il est réservé aux hommes de mourir une fois. Une fois. Après quoi vient le jugement. Ce jugement sera-t-il synonyme de bénédiction? À savoir que nous comparaîtrons devant Dieu pour rendre des comptes parce que nous aurons accepté Jésus-Christ? Ou est-ce que ce jugement sera synonyme de condamnation parce que certains n'auront pas accepté Jésus-Christ? Alors quand vous passerez devant Jésus, ça sera la condamnation ou ça sera les récompenses? Est-ce que vous avez déjà choisi? Peut-être quelqu'un ne l'a pas encore fait. Peut-être que quelqu'un ce soir se dit mais je ne sais pas comment ça va se passer. Oui, je vais mourir, je ne mourrai qu'une fois, il n'y a pas de réincarnation, il n'y a pas de karma dans la religion chrétienne. Il est permis aux hommes de vivre et de mourir une seule fois, être sauvé. Est-ce que ce n'est pas la plus merveilleuse des nouvelles? C'est ça, êtes-vous sauvé? Vous devez pouvoir répondre. Souvent, j'ai jamais dit, mais je ne sais pas si je suis sauvé, si Dieu veut. Et c'est vrai que Dieu veut que vous soyez sauvé. Alors qu'est-ce que ça veut dire vraiment être sauvé? Ça veut dire qu'on est délivré de la punition du péché. Le péché, il existe. Le péché, c'est une réalité. Quand nous naissons pécheurs. Nous naissons déjà morts. C'est triste à dire, mais quand on est déjà mort. On est déjà mort spirituellement. Et on a besoin de comprendre qu'est-ce qu'il faut faire, ou plutôt qu'est-ce qui a été fait pour que nous puissions être pardonnés. J'ai été étonné, moi, le jour où Jésus a guéri un homme qui était paralysé depuis 38 ans. C'est beaucoup, 38 ans. Il a été paralysé pendant 38 ans. Et quand Jésus le rencontre quelques jours après dans le temple, Jésus dit à cet homme, ne pèche pas de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Bon, c'est une parole qui m'a tout le temps fait frémir. Qu'est-ce qu'il y a de pire que d'être paralysé depuis 38 ans? Eh bien, c'est d'aller en enfer. Voilà. Voilà ce qu'il y a de pire. C'est l'enfer éternel. Je ne sais pas si les gens passent à l'enfer. Voyez, on va fêter la naissance de Jésus, mais je suis sûr que dans les centaines de milliers d'églises, personne ne parlera de l'enfer éternel. L'obscurité éternelle. J'avais fait une fois une étude sur l'enfer et j'avais pris peut-être une trentaine de textes qui nous parlent de l'enfer, des flammes éternelles, de l'obscurité, de l'angoisse. Ça doit être quelque chose de terrible. vivre éternellement dans les ténèbres. Vous comprenez que la signification d'être sauvé se comprend plus facilement quand on parle de l'enfer. Être sauvé, ça signifie qu'on est sauvé de l'enfer. Et l'enfer est quelque chose de terrible, c'est quelque chose d'éternel. Les hommes ont bien essayé d'atténuer la situation en parlant du purgatoire. Le purgatoire, ça n'existe pas. Un lieu où on souffre pour expier ses fautes un certain temps après la mort, avant d'être intégré dans le paradis. Ça n'existe pas. C'est un endroit de souffrance éternelle. Et lorsqu'on est sauvé, on est délivré de l'enfer, on est délivré de la culpabilité. Cet après-midi, je discutais avec un monsieur qui vient pour la troisième fois, et il me disait, je n'arrive pas à me pardonner. Parce que bon, il a fait beaucoup de choses mauvaises, et il me dit, je comprends que Dieu veuille me pardonner, mais moi je n'arrive pas à me pardonner. Et je crois que c'est une question de temps, à force d'écouter la parole de Dieu, il va comprendre qu'il a aussi le devoir de se pardonner, car c'est merveilleux d'être pardonné, mais c'est terrible de ne pas vouloir se pardonner soi-même des péchés que l'on a pu commettre. Quand on est sauvé de l'enfer, on est sauvé de la culpabilité. Parce que la culpabilité, ça nous détruit. Quand on est continuellement sous le poids de la culpabilité, on est malheureux. Pourquoi tant et tant de hommes décident de se supprimer? C'est parce qu'ils sont sous le poids de la culpabilité et ils n'ont pas réussi à obtenir le pardon. Vous connaissez tous la parabole du mauvais riche et de Lazare. C'est une parabole qui est d'autant plus sérieuse, c'est que c'est Jésus lui-même qui en parle. Il parle de deux hommes qui sont morts, qu'un a été porté par les anges dans le paradis. Ça doit être extraordinaire quand on part comme ça, non? Vous y pensez des fois au jour où vous risquez de mourir, où le Seigneur va vous porter par les anges dans le sein d'Abraham? Vous y pensez dans le paradis? Est-ce que vous y pensez? Moi j'y pense, souvent j'y pense. J'y pense, des fois quand j'ai un peu d'hypertension, je dis « Ah, ça y est, c'est le moment !» Et puis non, ça ne marche pas. Mais ça arrive des fois, on se dit « Ah, peut-être que le Seigneur va venir me chercher. » Et puis non, bon, c'est pas grave. Hein? Il y avait deux hommes, un pauvre qui est parti dans le ciel, et un riche, un mauvais riche, qui est parti dans le lieu de tourment. Et cet homme, il a prié. Mais c'était trop tard. Et vous ne devez pas faire ce que des millions de gens font, à savoir de dire « on verra après ». Je crois que c'est une des ruses du diable les plus grandes qu'il ait proposées aux hommes, de leur laisser croire que si Dieu existe, on peut avoir la possibilité de choisir après. Et moi j'ai lu un livre dernièrement, un gros bouquin comme ça, où justement un pasteur enseigne qu'après la mort, on a quelques minutes pour choisir. Vous voyez ? Je l'ai à la maison ce livre. Est-ce que c'est bien ça? C'est grave. C'est une abomination ça. Vous vous rendez compte? Tout le livre est biblique, sauf ces 4 ou 5 lignes. Le pasteur dit que non, mais Dieu dans son amour, il est plus miséricordieux que les pasteurs sur la terre et qu'il permet aux hommes de se repentir. Ils ont quelques minutes, pas beaucoup, mais juste quelques minutes après la mort pour vraiment se décider, parce qu'ils verront un peu plus clair sur l'éternité. Vous voyez? C'est comme ça que c'est dit. Est-ce que vous vous rendez compte l'abomination que c'est cet homme? Il va passer un mauvais quart d'heure, je vous le dis, quand il va passer devant le Seigneur. Non, c'est sur la terre. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, et c'est sur la terre qu'il faut se préparer à rencontrer le Seigneur. C'est sur la terre que Dieu peut vous révéler sa parole, vous révéler la beauté de la prédication, la beauté du sacrifice de Jésus-Christ sur le bois de la croix. C'est sur la terre que cette prédication qui peut être une folie peut tout d'un coup devenir une puissance de Dieu dans votre cœur. Cet homme qui va dire à Jésus, mais j'ai 5 frères, envoie-les dans ma maison. Si quelqu'un des morts ressuscite, ils croiront. Jésus a dit, ils ont la parole. Ça suffit la parole de Dieu. Ce soir, vous entendez la parole de Dieu. Vous entendez qu'il vous est réservé de mourir une seule fois. Vous entendez que le Sauveur, il a été envoyé, c'est Jésus-Christ, d'une manière surnaturelle, merveilleuse. Vous entendez qu'il est mort sur le bois de la croix pour vous délivrer de l'enfer et de la culpabilité, et que vous devez lui demander pardon de tout votre cœur. Lazare, il n'a pas été sauvé parce qu'il était pauvre. Lazare, il a été sauvé parce que c'est inclus dans son prénom, ça signifie « Dieu est mon secours ». Il a sur la terre, il a dit « Voilà, moi, je veux que Dieu me secoure. Je ne suis pas riche, ce n'est pas une question de richesse. Dieu aime les riches, Dieu aime les pauvres. Les gens, ils n'iront pas en enfer parce qu'ils sont pauvres ou parce qu'ils sont riches. Et ils n'iront pas au paradis parce qu'ils seraient dans ces deux situations. Les gens, ils iront au ciel parce qu'ils auront décidé de se repentir à cause du péché qui repose sur leur âme. » Oui. Il n'y a pas besoin de dire, si moi je fais telle expérience, si quelqu'un des morts revenait, vous savez, quelques jours après Jésus est mort. Il n'est pas mort Jésus quelques jours après. C'est Jésus qui a dit, même si quelqu'un des morts revenait, il ne croirait pas. Mais la preuve, c'est que Jésus est revenu de la mort. Et comment? Ça n'a pas empêché les gens de continuer à vivre dans le péché. C'est bien la preuve que nous sommes inexcusables. C'est en écoutant la parole de Dieu qu'un homme peut passer des ténèbres à la lumière. Oui, si vous avez accepté Jésus, vous serez sauvés de la perdition éternelle. C'est ce que l'ange Gabriel a dit, ou l'ange a dit à Joseph, c'est lui qui sauvera le peuple. Son nom est Jésus. Alors, pour terminer, est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui dit « moi dans mon cœur ». Je veux lire la parole de Dieu. Je veux découvrir la parole de Dieu. Je me souviens de ce témoignage que j'ai entendu il y a quelque temps. C'est une femme qui était âgée, très vieille, et qui, elle l'a dit après dans son témoignage, c'est une femme qui ne pouvait plus sortir de chez elle. Et voilà qu'elle a trouvé une Bible dans la poubelle. Et on avait donné une Bible à une de ses voisines. Et sa voisine, elle l'a prise, et quand elle est arrivée à la maison, c'était une résidence, vous savez, quand elle est arrivée à la maison, elle a pris la Bible, elle l'a jetée dans la poubelle. Vous voyez? Parce qu'elle n'en voulait pas. Les poubelles venaient d'être vidées, les poubelles étaient propres et tout. Et la mémé, elle est descendue, jetée les poubelles, et elle voit dans la poubelle une Bible. C'est pas merveilleux? Et elle l'a prise. Il y avait l'adresse de l'église. Elle n'a jamais été à l'église. Mais cette femme, elle s'est convertie, elle a fait venir le pasteur. Vous ne trouvez pas ça merveilleux? Moi, je crois que Dieu est capable de sauver tous ceux qui le cherchent, de sauver tous ceux qui veulent faire la paix avec lui. Et peut-être ce soir, vous vous dites, oui, moi, je ne veux pas aller en enfer. Je veux être délivré. Parce que non seulement être sauvé, ça signifie être délivré de l'enfer, être délivré de la culpabilité, mais ça signifie également être délivré de toutes les chaînes. Parce qu'il y a des gens, ils acceptent Jésus, mais ils ont besoin d'une délivrance. Il y a des gens qui sont liés par la pornographie, liés par la drogue. Par quoi peut-on être lié sur la terre? Il y en a des choses qui peuvent lier les gens. Est-ce que Dieu est un Dieu de délivrance? C'est ça être sauvé. Quelqu'un qui est sauvé, il est délivré des chaînes du péché. Chaque fois que Jésus sauvait un homme, il lui disait « ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé », il est délivré. Même le gadarénien qui était lié de chaînes dans les cimetières, le Seigneur l'a entièrement délivré. Oui, être sauvé, ce n'est pas juste avoir changé de religion, ce n'est pas juste avoir pris un baptême d'eau. Être sauvé, c'est véritablement avoir compris que l'Évangile est une puissance et que le sang de Jésus a le pouvoir de vous délivrer. Êtes-vous sauvé? Pouvez-vous dire ce soir, oui, si je meurs, je partirai dans la gloire. Oh oui, j'ai ce problème, mais Dieu a le pouvoir de me délivrer. C'est dernièrement, une dame me disait, mais est-ce que Dieu peut me délivrer de la dépression? Est-ce que Dieu peut délivrer d'une dépression? Oui, être sauvé, c'est ça aussi. C'est également être délivré de tout ce qui nous opprime, de tout ce que le monde nous impose. Moi, je le crois vraiment, que Dieu est un Dieu de délivrance. Oui, êtes-vous sauvé? Fermons les yeux quelques instants. C'est à vous de choisir, ce n'est pas Dieu. Dieu a déjà choisi. Ce n'est pas vous qui devez dire, oh, si Dieu le veut, il me sauvera. Non, vous devez dire, Seigneur, ce soir j'ai besoin de grâce, de délivrance, de victoire. J'ai besoin d'assurance. C'est cela, être sauvé. Voilà à quoi reconnaît quelqu'un qui est sauvé. Il est plein de confiance, plein d'assurance. On l'a chanté tout à l'heure, on l'a chanté. Il nous reste à le vivre d'une manière puissante. C'est pour ça que Dieu a dit, la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent, mais c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Seigneur Jésus, oui, tu veux sauver les hommes. Nous l'avons chanté, que la porte est encore ouverte, que c'est encore un jour de grâce, que c'est une heure bénie que de se retrouver dans ta présence, que ce sont des moments de délivrance, des moments de guérison intérieure, de guérison physique. Oui, Seigneur, tu es venu sauver les hommes. Tu as dit par ton serviteur qu'il y aurait une grande joie sur la terre pour les hommes de bonne volonté. Et c'est vrai, Seigneur, que les hommes qui te cherchent, ils obtiennent cette joie profonde. Seigneur, nous te prions pour cette ville de Toulouse, que tu travailles dans les réunions, dans les églises, dans les maisons, partout où ta parole a été semée, véritablement, que des hommes et des femmes se mettent à te chercher pour obtenir le pardon de leurs péchés, pour obtenir la délivrance et le salut. Que ton nom soit béni. Merci Seigneur Jésus.